Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans cette édition matinale du Monde aujourd'hui de ce mardi 13 août. Au sommet, le cessez-le-feu entré en vigueur début août entre Kinshasa et Kigali dans l'est de la RDC est largement observé selon la chef de la diplomatie congolaise. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé hier à Bamako pour sa première visite officielle dans un pays de l'Alliance des États du Sahel. Il a plaidé en faveur d'un rapprochement avec le Mali. En Tanzanie, le principal parti d'opposition Chadema demande la libération de plusieurs de ses responsables, dont ses emblématiques dirigeants Freeman Mbowe et Tundu Lissou, arrêtés avant un rassemblement de jeunesse. Donald Trump porte plainte contre le ministère américain de la justice, réclamant 100 millions de dollars pour tentative de persécution politique lors de la perquisition en 2022 de sa résidence en Floride par le FBI. Et en sport, la Fédération malienne de football a lancé un appel à candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Les détails dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie, mais d'abord le journal. Le cessez-le-feu entré en vigueur début août entre Kinshasa et Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo est largement observé, a jugé lundi la chef de la diplomatie congolaise, déclaration faite à Kinshasa à l'issue de la visite du président angolais en RDC. Le point avec Eddy Sango.
Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de 40 minutes hier dans la capitale congolaise. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a expliqué lors d'un point de presse conjoint avec son homologue angolais, Titi Antonio, que le cessez-le-feu est globalement respecté, avec quelques exceptions qui sont passées inaperçues. « Nous sommes dans une dynamique encourageante », a-t-elle indiqué. Le énième cessez-le-feu signé à Luanda par Kinshasa et Kigali, en vigueur depuis le 4 août, a été accueilli avec scepticisme par les habitants de l'est du pays. Le même jour, le M23 s'est emparé d'Ishasha, une localité frontalière de l'Ouganda, puis a continué à progresser dans cette zone dans les jours qui ont suivi sans donner lieu à des affrontements d'envergure. Une douzaine de cessez-le-feu et trêves ont déjà été décrétés, mais jamais respectés, plus de quelques semaines. Lors de la rencontre, Lorenzo Tshisekedi d'hier, Kinshasa a réitéré son engagement à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda.
Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été reçu hier par le président de la transition malienne Assimi Goïta. Nous resterons unis conformément aux réalités qui nous imposent de continuer à coopérer sur tous les plans. Je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations, a déclaré M. Sonko à l'issue d'une discussion avec le colonel Goïta qui l'a qualifié de très franche et très fraternelle. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait déjà rendu une visite officielle aux autorités de Bamako fin mai. Il avait dit vouloir faire revenir au sein de la CEDEAO le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont quitté l'organisation régionale en janvier, l'accusant d'être inféodé à l'ancienne puissance coloniale française et de ne les pas avoir assez soutenu contre le djihadisme. Au Togo, une coalition de partis politiques d'opposition et d'organisations de la société civile a lancé à Lomé une campagne pour réclamer la libération des détenus politiques. Le regroupement baptisé « Front touche pas à ma constitution » a annoncé démarrer une campagne de sensibilisation, notamment via du porte-à-porte et des distributions de tracts en faveur de la libération des 92 prisonniers politiques du pays qui croupissent dans des conditions inhumaines selon une déclaration écrite de la coalition. Cette dernière a vu le jour en réaction à l'adoption d'une nouvelle constitution par les députés togolais en avril, qu'elle qualifie de coup d'État institutionnel. Le principal parti d'opposition en Tanzanie a demandé lundi la libération de plusieurs de ses responsables, dont ses dirigeants Freeman Mbowe et Tundu Lissou, arrêtés avant une manifestation. Les précisions avec Deli Diko.
Cette vague d'arrestations suscite l'inquiétude d'organisations de défense des droits humains et de l'opposition dans le pays qui ont dénoncé un retour aux pratiques autoritaires de l'ancien président John Magufuli à quelques mois des élections locales en décembre 2024, puis présidentielles et législatives en 2025. Le parti Chadema devait tenir lundi un rassemblement pour la Journée internationale de la jeunesse dans la ville de Mbeya où des milliers de jeunes étaient appelés à converger autour du slogan « Prenez en main votre avenir ». La police a dénoncé dimanche l'interdiction de ce rassemblement invoquant des risques de violence. Le même jour, le vice-président du parti Tundu Lissou et deux autres responsables ont été appréhendés à Mbeya. Lundi, son président Freeman Mbowe a été arrêté à l'aéroport de Sangwe. Nous voulons savoir où se trouvent les dirigeants de notre parti qui ont été arrêtés, a ajouté le secrétaire général adjoint de Chadema pour la Tanzanie continentale, Benson Kigaila, affirmant que certains ont été battus. La CT Wazalendo, une formation d'opposition, a fermement condamné ces arrestations qui ravivent les craintes d'un retour rapide à un environnement répressif. Amnesty International a dénoncé des arrestations massives et détentions arbitraires.
Les États-Unis assurent vouloir lancer cette semaine en Suisse un processus pour discuter d'un cessez-le-feu au Soudan, malgré l'incertitude sur la participation du gouvernement soudanais à ces pourparlers. Le point avec Michel Joseph.
L'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello, a indiqué hier que ces pourparlers en Suisse sont une extension de ceux de Jeddah. Il a également indiqué que ce cycle de négociations qui doit démarrer le 14 août pouvait durer jusqu'à 10 jours, mais il n'en a pas précisé le lieu pour des raisons de sécurité. La priorité de ce processus est de parvenir à la cessation des hostilités et de discuter de la protection des civils, de l'accès humanitaire et de l'application de la loi. Mais ce n'est pas le lieu pour avoir un dialogue politique, a-t-il dit. Le diplomate américain a affirmé que les paramilitaires ont donné leur accord inconditionnel sur leur participation, mais que les forces armées soudanaises n'ont pas encore confirmé leur participation. Mais nous irons de l'avant avec cet événement, et cela a été clairement indiqué au parti, a-t-il dit, tout en reconnaissant que sans le gouvernement, il ne pourra pas y avoir de médiation formelle, mais de simples discussions techniques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a porté plainte contre le ministère de la Justice pour tentative de persécution politique lors de la perquisition en 2022 de sa résidence en Floride par le FBI pour retrouver des documents classifiés. La plainte déposée la semaine dernière et consultée lundi par l'AFP accuse le ministre de la Justice, Merrick Garland, et le patron du FBI, Christopher Wray, de s'être éloigné du protocole appliqué pour les anciens présidents pour blesser M. Trump. La plainte réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts et 15 millions de dollars au titre des frais de justice. L'ancien président était poursuivi en Floride pour sa gestion jugée négligente de documents confidentiels retrouvés à sa résidence à Mar-a-Lago après son départ de la Maison-Blanche. Une juge fédérale a annulé mi-juillet les poursuites, mais le procureur spécial qui instruit cette affaire a fait appel de cette décision. Donald Trump et son richissime soutien Elon Musk ont échangé un florilège de théories radicales hier en comparant les immigrés clandestins à des zombies ou en parlant de coup d'État contre le président américain Joe Biden. C'était lors d'une conversation sur X, le patron du réseau social aussi aux manettes de Tesla et SpaceX avait promis un moment très divertissant. L'ex-président républicain a une nouvelle fois promis la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis en affirmant que l'afflux massif de migrants sous l'administration Biden a fait augmenter la criminalité. La discussion a été écoutée par plus d'un million d'utilisateurs en direct sur X, sur lequel Trump avait été banni après l'invasion du Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Les États-Unis ont annoncé lundi la reprise de leurs ventes d'armes offensives à l'Arabie Saoudite. Ces ventes étaient suspendues depuis plusieurs années en raison de préoccupations humanitaires au Yémen. Mohamed Oumfa.
Le département d'État a annoncé que cette reprise aurait lieu après le suivi des procédures d'usage avec le Congrès. L'Arabie Saoudite est restée un partenaire stratégique proche pour les États-Unis et nous nous réjouissons de renforcer ce partenariat, a déclaré à la presse un porte-parole du département d'État, Vedan Petel. Après son arrivée à la Maison-Blanche en 2021, le président Joe Biden avait annoncé que seul l'armement défensif serait envoyé à l'Arabie Saoudite. La mesure intervenait après que des bombardements saoudiens sur le Yémen ont provoqué plusieurs milliers de morts au sein de la population civile. Riyad s'est engagé en 2015 au Yémen contre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, qui ont conquis une bonne partie du territoire. L'ONU est parvenue à négocier une trêve en avril 2022 qui tient depuis, malgré son expiration officielle. Depuis, il n'y a eu aucun bombardement saoudien sur le Yémen et les tirs transfrontaliers depuis le Yémen vers l'Arabie saoudite ont largement cessé, a déclaré Vedan Petel.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Alexandrine Rolognon.
La Minute Éco avec Alexandrine Rolognon. Un premier bilan des Jeux Olympiques de Paris qui ont pris fin dimanche fait état de plus de 11 millions de visiteurs qui ont pris part aux activités liées aux JO en région parisienne entre le 23 juillet et le 11 août. Selon Paris 2024, plus de 9,5 millions de billets ont été vendus et 6 millions de visiteurs ont fréquenté les sites de célébration en tête des touristes étrangers, les Américains, les Allemands et les Britanniques. De hauts responsables américains vont se rendre cette semaine en Chine. Les deux plus grandes économies du monde cherchent à entretenir leurs liens sur fond de fortes rivalités, marquées notamment par des tensions commerciales. La visite prévue jeudi et vendredi à Shanghai s'inscrit dans le cadre d'un groupe de travail lancé l'année dernière et doit permettre aux deux puissances d'aborder divers dossiers comme la stabilité financière, les données transfrontalières, mais aussi la lutte contre le fentanyl, drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis. L'état de santé du dirigeant de Binance, Tigrane Gambaryan, s'est détérioré dans la prison nigériane où il est accusé de blanchiment d'argent. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et deux de ses cadres ont été accusés d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars. Binance fait également l'objet d'une accusation d'évasion fiscale. La plateforme et Gambaryan ont toutes deux nié les accusations.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
La Fédération malienne de football a lancé un appel à candidature pour le poste de sélectionneur des Aigles.
Cet appel, diffusé le mercredi 7 août 2024, invite les candidats intéressés à soumettre leur dossier avant la date limite fixée au 16 août 2024. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous donne les principaux aspects ainsi que le profil recherché pour ce poste.
À propos des missions, il s'agira pour le nouveau sélectionneur de mettre en place une sélection nationale senior A de football sur la base des nouveaux fondements, de qualifier le Mali à la phase finale de la CAN Maroc 2025 et d'y atteindre au minimum les demi-finales, de qualifier le Mali à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 et d'y atteindre au moins les huitièmes de finale. Parlant de son profil, il doit être titulaire d'une licence A Pro CAF ou d'une licence Pro UEFA ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Le nouveau sélectionneur doit avoir une bonne connaissance du français, langue de travail et de communication. Une bonne connaissance du football africain en particulier et du football mondial en général fait partie du profil. En plus, le sélectionneur doit être porteur d'un projet sportif et être disposé à résider en permanence au Mali pendant la durée du contrat qui est de 2 ans renouvelable. Rappelons que le 13 juin 2024, l'ancien sélectionneur des Aigles, Eric Sekouchel, a été viré par la Fédération de football. Et depuis, le Mali est sans sélectionneur. Toujours à titre de rappel, le 27 juin dernier, le capitaine des Aigles, Hamari Traoré, a quant à lui été suspendu par la Fédération pour avoir qualifié la gestion du football malien de mauvaise gouvernance. En guise de solidarité à leur capitaine, bon nombre de ses coéquipiers ont menacé de ne pas honorer la sélection nationale tant que Hamari demeure suspendu. Une situation qui inquiète plus d'un si on sait que les premières et deuxième journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 s'annoncent pour septembre prochain. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Merci à Siaka Traoré pour toutes ces précisions. Des médaillés olympiques algériens, dont la boxeuse Iman Relif et la gymnaste franco-algérienne Keilia Nemour, ont été reçus en grande pompe lundi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, après avoir été chaleureusement accueillis par des dizaines de supporters à l'aéroport d'Alger. Après 2 semaines de victoires, de folie, de déception aussi parfois, les JO de Paris ont pris fin dimanche et leur était au démontage et au nettoyage lundi pour préparer l'arrivée des Jeux paralympiques qui débutent dans plus de 2 semaines entre le 28 août et 8 septembre 2024. Enfin, en Europe, l'attaquant argentin Julian Alvarez, 24 ans, s'est engagé lundi pour 6 saisons avec l'Atlético Madrid en provenance de Manchester City, a annoncé le club espagnol dans un communiqué. Et c'est tout pour l'espoir.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Au Burkina Faso, c'est parti depuis ce week-end pour les concours directs d'entrée à la fonction publique session de 2024. Plus de 2 millions de candidats pour plus de 5100 postes à pourvoir, c'est inédit, avec moins de 1% de chances d'être admis. Le gouvernement assure la transparence et les candidats affichent la sérénité. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Samedi 10 août, au lycée Wézin Koulibaly à Bobo Dioulasso, près de 400 km de la capitale, le ministre de la fonction publique lance la composition sur table des concours directs. Et c'est l'ensemble des 13 régions du pays qui composent en simultané. Il n'y a que 5111 postes pour un peu plus de 2 millions de candidatures. Le gouvernement rassure, toutes les dispositions sont prises pour l'égalité de chances entre tous les candidats. Bassolma Bazier, ministre de la fonction publique.
Si nous ne voulons pas qu'un fonctionnaire soit lâche, qu'il soit incompétent ou qu'il soit un traître, ça dépend des conditions dans lesquelles nous l'avons recruté et les conditions que nous avons réunies pour sa formation afin qu'il soit un véritable patriote. Voilà pourquoi il faut mettre l'accent sur la qualité du recrutement. Je vous invite à la sérénité parce que nous créons toutes les conditions nécessaires pour que tous les enfants soient mis dans les mêmes conditions.
Les candidats se disent rassurés par les propos du ministre Bénédicte Milogo.
Oui, sereine, je suis bien préparée, donc je me dis que et avec l'équité des chances, j'ai aussi la chance de pouvoir et réussir sans forcément avoir un bras long, comme l'a dit le ministre.
Richard Meda.
Vraiment très fier de ces propos qui ont été avancés ce matin. Vraiment. C'est un plaisir pour nous et un honneur.
Selon le gouvernement, le budget pour l'organisation d'un concours s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. L'innovation majeure cette année, c'est le recrutement par concours des chauffeurs et des agents de liaison. Pendant une douzaine de jours, les candidats vont participer à 89 concours. L'État étant le plus gros employeur du pays, ceux qui n'auront pas réussi à ce concours vont devoir aller chercher ailleurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Alors que les fortes pluies saisonnières s'abattent sur le Soudan, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays continuent de subir les conséquences d'une situation humanitaire très grave. Après plus d'un an d'une guerre meurtrière qui a conduit à la tragédie de la famine, le tout aggravé par les effets croissants du changement climatique. Les fortes pluies et les inondations ont déjà touché des dizaines de milliers de personnes à travers le Soudan, provoquant de nouveaux déplacements, des blessures et des décès. Alexandrine Holoyon.
Plus de 11 000 personnes, dont des réfugiés accueillis dans le pays et des communautés locales dans l'est de l'état de Kassala, ont été touchées par de graves inondations et de fortes pluies au cours des deux dernières semaines. Parmi ces personnes figurent de nombreuses familles récemment arrivées après avoir fui les violences dans l'état de Sennar et qui se sont réfugiées dans 5 sites de rassemblement et centres d'accueil. Plus de 400 abris ont également été endommagés dans le camp de réfugiés de Chagarad, laissant des personnes déjà vulnérables dans le dénuement. Ashraf Zakaria Ibrahim, déplacé interne soudanais.
Le même jour de notre arrivée, il a plu abondamment. La souffrance était immense. C'était la deuxième souffrance après la guerre. Toutes les tentes étaient inondées, pas à l'intérieur, mais sous le plastique.
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et ses partenaires sont sur le terrain et font tout leur possible pour aider les plus vulnérables. En collaboration avec les autorités de l'État, un nouveau terrain a été identifié où des tentes sont installées pour accueillir les familles sinistrées. Le nouveau site devrait accueillir quelques 800 familles nouvellement déplacées en raison des inondations. Le HCR a déjà commencé à ériger des abris d'urgence avec quelques 400 tentes installées à ce jour. Malgré les pluies incessantes, au moins 200 familles ont été relogées. Bichenge Malaika Balikwisha est chef du bureau auxiliaire de Kassala du HCR.
Les besoins sont encore très très importants. Les personnes touchées par les inondations ont toujours besoin d'abris, de services de santé, d'accès à l'eau, d'hygiène et d'assainissement. Elles ont toujours besoin d'accès à l'éducation, de protection des enfants, mais aussi d'accès à des moyens de subsistance.
Les inondations dans la région du Darfour ont également un impact sur la capacité déjà limitée des agences d'aide à atteindre les personnes dans le besoin. Les besoins humanitaires atteignent des proportions épiques dans la région, car des centaines de milliers de civils sont toujours en danger et la famine a récemment été confirmée dans un site de déplacement. Marwa Moussa Mohamed, déplacée interne soudanaise.
J'espère que la guerre s'arrêtera, que la paix se répandra et que les gens pourront rentrer chez eux. Je souhaite vraiment que les gens puissent rentrer chez eux en toute sécurité, car rien ne peut remplacer le confort d'un foyer. Peu importe ce que font les organisations, rien n'est comparable au fait d'être chez soi.
Depuis la mi-avril, les fortes précipitations liées à El Niño ont entraîné des phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique de l'Est qui frappent les communautés de réfugiés et de déplacés. Le HCR a lancé un appel régional de près de 40 millions de dollars pour aider et protéger 5,6 millions de réfugiés, de rapatriés, de personnes déplacées et de communautés locales au Burundi, en Éthiopie, en Somalie, au Rwanda, au Sud-Soudan et au Soudan.
La campagne présidentielle américaine est suivie de près en Ukraine, car son issue pourrait avoir un impact significatif sur la sécurité régionale, la politique étrangère des États-Unis, le soutien de l'OTAN, l'aide à l'Ukraine et les relations avec la Russie. Miroslav Godgadze de la VOA nous en dit plus. Le récit est d'Eric Manirakis.
Bienvenue, c'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous?
La vice-présidente Kamala Harris a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à 6 reprises, la dernière fois en juin lors du sommet pour la paix en Ukraine, en Suisse. L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, qui a commencé un an après le début de l'administration Biden-Harris, a façonné la politique étrangère des États-Unis. Selon Ivana Klimpouch-Chintzandze, membre du Parlement ukrainien, le leadership et le soutien des États-Unis ont été cruciaux pour aider l'Ukraine à résister à l'agression russe.
Nous comprenons malheureusement que les politiques actuelles de livraison d'armes à l'Ukraine, qui sont trop limitées et tardives, ainsi que cette gestion de l'escalade, nécessitent des changements.
Selon elle, le soutien bipartisan des États-Unis est essentiel pour l'Ukraine et Kiev se prépare à travailler avec toute administration pour assurer la continuité de l'aide.
Je pense qu'il est extrêmement important de passer d'une politique de soutien indéfinie à l'Ukraine à une stratégie visant à assurer la victoire effective de l'Ukraine.
Les États-Unis restent le premier fournisseur d'aide à l'Ukraine. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis ont alloué plus de 81 milliards de dollars. La politique de soutien à l'Ukraine de l'administration Biden-Harris a été historique, estime l'analyste Mykola Davidiuk.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus important soutien jamais apporté à des États européens. Ils ont ainsi marqué l'histoire.
Le politologue ukrainien Yevhen Hlibovsky souligne que le montant de l'aide est crucial, mais comprendre les intentions de la Russie et le rôle stratégique de l'Ukraine l'est tout autant.
La plus grande erreur de l'administration Biden a été de ne pas comprendre que la défaite de la Russie est essentielle pour apaiser les tensions internationales. Ainsi, en cherchant à éviter une troisième guerre mondiale, l'administration Biden a commis des erreurs qui, au contraire, la rendent plus probable.
Il note toutefois que le soutien des républicains à l'Ukraine n'est pas garanti. L'ancien président Donald Trump a exprimé des inquiétudes concernant la corruption dans le pays et a remis en question les alliances militaires.
L'Ukraine se retrouve dans une situation délicate, car une potentielle administration Trump menace de couper totalement l'aide à l'Ukraine et envisage soit de se retirer de l'OTAN, soit d'en diminuer l'importance.
Que ce soit un républicain ou un démocrate qui remporte la présidence en novembre, la guerre de la Russie en Ukraine et la garantie de la paix en Europe resteront des préoccupations majeures pour le prochain dirigeant américain.
Alexandrine Cron-Lognon avec vous. Washington Forum s'intéresse cette semaine à la campagne présidentielle en cours aux États-Unis. Après les républicains, les démocrates se retrouvent la semaine prochaine à Chicago pour choisir officiellement leur candidat à la présidentielle de novembre. La vice-présidente Kamala Harris est assurée d'être investie avec son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Quels sont, selon vous, les scénarios les plus probables pour la suite de la campagne? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com. En rediffusion samedi et dimanche.
L'ancien président Donald Trump a annoncé que l'un des sites web de sa campagne a été piraté. Alors que les détails ne sont pas encore connus, son vice-président J.D. Vance a accordé plusieurs interviews dimanche dans lesquelles il a attaqué le ticket présidentiel démocrate. Pendant ce temps, la vice-présidente Kamala Harris et son colistier Tim Walz poursuivent leur campagne en mettant l'accent sur l'économie. Le reportage de Véronica Balderas-Ecclesias. Récit Lionel Gaïma.
L'information selon laquelle la campagne de Trump a été piratée continue de faire les gros titres quelques heures après que le candidat républicain Donald Trump en a parlé pour la première fois samedi sur sa plateforme des médias sociaux Truth. Le message est le suivant. Nous venons d'être informés par Microsoft Corporation que l'un de nombreux sites web a été piraté par le gouvernement iranien. Les autorités iraniennes ont rejeté ces accusations. Les présumés documents piratés contiendraient des informations sur le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance. Il est apparu dimanche dans plusieurs émissions, mais les questions ont porté essentiellement sur la course à la présidence. Lors de l'émission This Week, diffusée sur ABC, le sénateur de l'Ohio a balayé les critiques concernant les déclarations pro-famille controversées qu'il a faites dans le passé et a réorienté l'attention vers les politiques du ticket présidentiel démocrate.
Pourquoi parlons-nous de l'inflation? Pourquoi ne parlons-nous pas du fait que les produits d'épicerie sont inabordables à cause de la politique de Kamala Harris?
L'économie a été aussi un sujet de discussion lors d'un meeting de la candidate démocrate Kamala Harris à Las Vegas, dans le Nevada.
Je promets à tout le monde que lorsque je serai présidente, nous continuerons à nous battre pour les familles de travailleurs américains. Notamment en augmentant le salaire minimum et en supprimant les taxes sur les pourboires pour les travailleurs du secteur des services et de l'hôtellerie.
Trump a fait un engagement similaire dans le passé et a accusé Harris d'avoir volé sa politique, pas d'impôts sur les pourboires. Même si les appels se multiplient pour que Harris donne plus de détails sur les projets économiques, la dynamique de la campagne est indéniable, a déclaré la sénatrice démocrate Amy Klobuchar sur la chaîne ABC.
Elle a enflammé le pays, de Philadelphie au cœur du Wisconsin, en passant par ce meeting de plus de 15 000 personnes en Arizona. Les gens veulent aller de l'avant.
Harris va rentrer à Washington après avoir participé à un événement politique à San Francisco. Elle et le président Joe Biden devraient faire une apparition publique ensemble jeudi dans le Maryland. Donald Trump doit s'exprimer sur l'économie mercredi à Asheville, en Caroline du Nord.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouedraogo, à la réalisation, Georges Léonard Sagnou. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie du programme de VOA Afrique.